Voilà, nous allons poursuivre un petit peu cette réflexion sur l'Église. On a vu un petit peu les raisons pour lesquelles c'est important. Et l'Église n'a pas toujours bonne presse, hein, c'est pas toujours évident, je vous ai remarqué. Pas mal de critiques, d'attaques comme ça, de tous les côtés. Et puis en même temps, quand on regarde même de plus près la sagesse, on se rend compte que tout ce qui a été dit au fil des siècles, finalement, dans la lumière qui a été transmise, pas les résultats du match de foot, mais enfin, pour tout le reste, il y a une sagesse et il y a quelque chose qui se révèle un jour ou l'autre comme étant vrai. Hein, quand l'Église, avant la guerre mondiale, les documents qui sont sortis contre le nazisme, et on n'a pas écouté, les documents sur l'économie, les documents sur la vie humaine, et c'est vrai qu'il y a une sagesse qui est là, qui vient de la lumière de Dieu, qui vient de l'expérience d'en haut, pour éclairer les consciences de l'homme. L'Église n'est pas là pour elle-même, elle est là pour servir le Christ et pour donner le chemin du bonheur à l'humanité. Elle n'est pas là pour imposer quelque chose, elle est là pour proposer à la liberté la parole de Dieu et pour proposer à la liberté de l'homme ce chemin qui doit le conduire vers Dieu. Voilà, c'est pas une autre mission que celle-ci. Il y a eu des drames, bien sûr, dans l'histoire de l'Église. Deux grandes déchirures, vous le savez, la déchirure du XIe siècle avec l'Église d'Orient, qui a été un drame terrible, parce que dont on subit encore les conséquences aujourd'hui avec toute l'orthodoxie, pour des raisons qui sont à la fois politiques. Enfin, quand on parle de ces grands drames de l'Église, il y a des raisons essentiellement politique, des raisons spirituelles aussi profondes. C'est assez frappant que le XIe siècle, qui est un siècle complètement dévergondé au niveau de la papauté, va conduire au premier schisme, premier grave schisme, j'allais dire, avec l'excommunication réciproque du pape et du patriarche de Constantinople en 1054, que le XVe siècle, qui était un siècle horrible au niveau de la papauté aussi, et début du XVIe siècle, conduira au deuxième schisme, qui était toute l'aventure de la réforme, avec Luther, Calvin, mais aussi l'Angleterre, Henri VIII, pour des raisons très différentes quand même, parce que c'est des raisons très personnelles pour Henri VIII, c'est quand même le refus du remariage qui a conduit à séparer l'Église d'Angleterre de Rome. Pour les autres, il y avait des raisons à la fois politiques profondes, c'est sûr. On est au début de l'éveil des nationalités, et pour se démarquer du Saint-Empire romain germanique, enfin austro-hongrois, et puis pour se démarquer aussi de Rome, qui avait un pouvoir politique, les princes allemands étaient tout contents de récupérer aussi une partie de la réforme. Et puis en même temps, il y avait le scandale de ce qui se passait à Rome, qui heurtait des gens comme Luther, de manière différente de Zwingli, parce que Zwingli était quand même... je pense que Luther était très très choqué, très ébranlé en lui-même. Zwingli quand même, c'était plus une manigance politicienne qui l'habitait, et Calvin d'une autre manière aussi. Donc il y a eu des drames qui ont résulté, des déchirures, et on commence maintenant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je crois que c'est un grand désir, c'est une tragédie cette division. Hein. Quand on va en Chine, une année j'étais en Chine, et notre guide qui n'était pas chrétien me dit, mais il y en a deux, il y a Jizur et puis il y a Jesus. Puis je dis, non, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Il dit, parce que moi j'étais avec des gens qui nous parlaient de Jesus, puis là il nous parle de Jizur. Donc avec deux prononciations différentes, le même Jésus, mais d'un côté c'est les évangéliques, de l'autre côté c'est les catholiques. Et à un moment donné il me dit, mais il faut vous mettre d'accord entre vous, alors ce serait mieux d'abord, avant de venir nous l'annoncer. Et ça m'a déchiré le cœur, je me suis dit, c'est pas possible, hein, on peut pas être dans une division pareille, comme ça. Mais la deuxième chose qu'il faut dire aussi par rapport à ça, c'est que si la frontière de l'Église passe par les cœurs, elle dépasse aussi les frontières confessionnelles, voyez-vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, saint Augustin disait que beaucoup de ce que l'Église a, Dieu ne les a pas, et beaucoup de ce que l'Église n'a pas, Dieu les a. De sorte que, quand on en reste uniquement aux frontières sociologiques, c'est ne pas comprendre la profondeur du mystère de l'Église. Et j'ai des amis protestants, par exemple, qui viennent souvent, et qu'on voit souvent, on est protestant, je dis, mais on est frères, on est vraiment plus proches, je suis plus proche de vous que de beaucoup de catholiques, parfois. Parce que, le Christ, c'est quelqu'un pour vous, parce que vous l'aimez, vous vivez de lui. Et puis, parfois, il y en a certains pour qui c'est une pratique sociologique, et il n'y a pas de proximité existentielle avec la personne de Jésus. Hein, voilà, c'est un mystère, l'Église. Si on veut la réduire à une sociologie, au fait qu'on est né comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez. On est tous appelés à chercher la vérité jusqu'au bout. On est tous appelés à aller au bout de la vérité et à connaître. Il y a un pasteur protestant qui s'appelle Max Turian, qui était à Thésée avec frère Roger de Thésée.